RMC, M comme Maïtena.
On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois.
Expliquez-moi comment la hausse des taxes sur le carburant peut faire quelque chose pour l'écologie.
On nous explique les bienfaits de l'écologie, de la pollution, etc. Ok, on veut bien l'entendre, mais on est vraiment punis, quoi.
Je pense pas que ceux qui ont manifesté avec des gilets jaunes voulaient nier la question écologique.
L'écologie, c'est du luxe. Pourquoi j'aurais pas le droit d'aller en ville si je suis smicard? Parce que je peux pas payer 2,50 €. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays.
Maïtena Birabin.
Et ça promet d'être tout à fait intéressant, ce talk aujourd'hui. Bonjour Anne Hessel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en médecine et en chimie. Vous êtes engagé dans plusieurs mouvements citoyens. Vous signez avec Paul Larutoureux et Jean Jouzel, le climatologue du GIEC, le livre. J'ai dit Paul, c'est Pierre, bien entendu.
C'est pas grave.
À chaque fois, pardon, excusez-moi, parce que je connais Paul Larutoureux.
Et moi aussi, c'est mon cousin.
Voilà, donc je sais que vous êtes Pierre. Bon, alors je continue de vous dire bonjour Anne, et je dis que vous avez signé avec Pierre, donc, et Jean Jouzel, le livre Finance Climat, réveillez-vous, les solutions sont là. C'est aux éditions Indigène. Pierre Larutoureux est donc à vos côtés. Merci.
Bonjour.
D'être là. Vous êtes donc le co-auteur de ce livre, vous aussi. Vous êtes économiste. Vous avez été nommé au Haut Conseil pour le climat qui vient d'être mis en place par le président de la République. 13 membres, 5 économistes, c'est pragmatique. 5 économistes parmi les 13 membres.
Eh bien, écoutez, oui, on va essayer de trouver des solutions qui permettent d'avancer en même temps sur la justice sociale et sur la protection de la planète.
Vous avez essayé de les trouver, ça depuis le temps qu'on réfléchit, on les
a,
non ?
On a déjà, vous avez lu ce livre.
Ben, j'espère bien, parce que vous êtes là pour ça. Vous évidemment. Êtes là pour dire à ceux qui vont nous appeler au 32-16, oui, vous avez des problèmes avec la fin du mois, mais nous, on peut vous aider à les résoudre. Vous pouvez dire ça ?
La réponse est oui.
Vous pouvez faire ça. La fin du mois contre la fin du monde, ça n'est pas vrai.
Non, évidemment.
C'est une formule choc, mais ça n'est rien d'autre qu'une formule.
Oui, on peut évidemment, et on va même faire améliorer la qualité de vie et le pouvoir d'achat du plus grand nombre.
Oui, dans combien de temps ?
Parce que c'est... Il y a des mesures qu'on peut mettre en place dans les 6 mois qui viennent, il y a des mesures qu'on peut mettre en place dans les 2 ans qui viennent.
Ouais.
Voilà, et on peut aussi, le président dit qu'il voulait 3 mois de débat, donc je pense qu'il faudrait qu'on mette tout sur la table. Moi, ce que j'espère, c'est que cette crise est l'occasion d'un sursaut collectif.
Ouais.
On paye 30 ans de n'importe quoi,
ouais.
On pousse les gens à aller habiter plus loin parce que les loyers sont beaucoup trop chers dans les centres-villes.
Mmh.
Voilà, on a fait un peu n'importe quoi pendant 30 ans. Mmh. Est-ce qu'on se donne 3 mois pour réfléchir vraiment à un changement ?
Mmh. Anne Hessel, est-ce que les gilets jaunes ne posent pas une question essentielle ? Qui est celle-là, très simple, comment financer la transition écolo de façon juste et efficace?
Oui, il pose surtout la question de savoir comment survivre quand on n'a pas beaucoup de moyens.
Oui.
Quand on a de tout petits salaires et qu'on s'aperçoit aussi que les inégalités sociales se creusent au fur et à mesure qu'on nous parle de progrès.
Oui.
Je pense que c'est surtout cette question-là qu'il pose, car ils ne sont pas du tout hostiles, me semble-t-il, à lutter contre le dérèglement climatique.
Absolument.
Mais ils ont des priorités. Et les priorités, c'est d'atténuer les inégalités sociales. C'est-à-dire que
C'est surtout ça.
Finir leur mois, mais leurs mois sont d'autant plus difficiles à finir que les inégalités sont creusées.
Ouais. Alors Nabil, qui est avec nous au 32-16, tient justement, je crois, ce même propos que vous. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Marseille. Vous êtes gilet jaune, Nabil ?
Je le suis.
Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse phrase « la fin du mois contre la fin du monde » ?
Ben moi, j'ai quelque chose juste à dire.
Oui.
C'est que on a une pression fiscale.
Oui.
On a des dettes publiques à rembourser. On a l'écologie. On a les routes, les autoroutes. À un moment donné, tout ça nous gonfle, mais on veut le faire. Ça nous dérange pas. On veut être écolo. On a envie de laisser quelque chose de pur à nos enfants. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai envie qu'ils souffrent. J'ai envie qu'ils respirent bien. Maintenant, il faut savoir une chose. On n'arrive plus. On peut plus. On a découvert chaque fin de mois, et à chaque fois qu'on essaie de s'en sortir, les banques nous relancent qu'on a des frais de découvert de 50, 60, 70 euros, donc le mois d'après, on s'engouffre encore plus. Moi, si j'ai de l'argent, je vous dis la vérité, j'achète tout ce que je peux acheter, ça ne me dérange pas. Moi, si j'ai de l'argent, je peux acheter un véhicule qui est écologique, je peux acheter un chauffage qui économise moins. Tout ça, ça ne me dérange vraiment pas. Mais il faut de l'argent, on a besoin d'argent.
Ouais.
On ne peut plus vivre comme ça, je veux dire, à un moment donné... Je veux bien que Macron dise toujours la même phrase depuis le départ. Hein. J'assume ma responsabilité. Ben, c'est bien d'assumer, mais derrière, tu laisses des gens qui vont souffrir. On souffre trop. Aujourd'hui, on souffre, demain, on souffre, après demain, on souffre. Le temps que lui nous lance un discours, on souffre quand même.
Alors...
Moi, je dis aux gilets jaunes, j'ai du respect pour eux. Ils sont dehors. Moi, je roule avec eux, des fois, je m'arrête. Mais j'ai quand même beaucoup de respect et je me dis quand même, il y a eu des morts.
Ouais.
Il se regarde dans le miroir le matin, il dit rien des morts. La femme qui est morte, qui s'est fait renverser. Si elle avait un mari, Il doit dire quoi, son mari ? Ma femme est morte pour rien ?
Nabil, toutes les questions que vous soulevez, d'abord, sans même soulever de questions, ce que vous dites et qui vient du plus profond, hein, on l'entend, il n'y a pas de discussion avec ça, pose un certain nombre de questions. Si vous voulez bien, je vais demander à Pierre Larouturu qui a fréquenté le président Macron, puisqu'il est nommé au Conseil pour le climat.
Avant-hier, c'est tout récent quand même.
Il le sait. Non, mais je sais bien, mais j'imagine que vous n'avez pas parlé de Scrabble, quoi. Vous avez parlé du sujet. Ce que porte Nabil, là, le président, il l'entend, il en a conscience, vous lui rapportez. Vous lui dites que c'est l'urgence ou pas ?
Ce groupe de travail a été créé avant-hier. Oui. On a eu trois quarts d'heure de travail. Donc, je ne vais pas vous faire croire qu'on a tout réglé. Voilà.
Vous êtes sacrément prêt pour aborder. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui sont dans ce groupe de travail travaillent sur le sujet depuis très longtemps.
Je vais pas faire le débat. La réponse est oui. Et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a presque la moitié des Français. Les chiffres, c'est que 45% des Français n'ont aucune épargne. Ouais. Quand on dit qu'en moyenne, les Français ont beaucoup d'épargne, 17%, c'est une moyenne. Mais on connaît tous dans nos familles, dans nos copains ou nous-mêmes, des gens qui finissent dans le rouge et qui ont des frais, ce que vient de dire Nabil, qui ont des frais de la banque, Donc, leur demander de faire un effort, ils ne peuvent pas faire un effort. Oui. Hein. Ils peuvent faire un effort dans leur vie personnelle, se dire qu'ils vont manger moins de viande, se dire qu'ils vont arrêter l'eau, voilà.
Mais si on leur
demande de prendre des transports en commun, s'il n'y a pas de transport en commun efficace chez eux, voilà. Si on leur demande d'isoler leur maison, isoler la maison, ça coûte 20 000 euros, la plupart des gens ne peuvent pas sortir 20 000. Donc, c'est pour ça qu'avec Anne Hessel, avec Jean Jouzel, avec plein de gens dans plein de pays, on dit que il faut accélérer la transition parce qu'on va vers une catastrophe. Vous avez vu dans l'Aude, vous en avez parlé l'autre jour, des milliers de familles qui ont eu leur maison ravagée par les inondations. Il y a eu plus de 10 morts, je crois. La semaine dernière, c'était des feux de forêt.
Donc, la question du changement climatique,
il faut qu'on s'attaque aux problèmes climatiques. Et la plupart des gilets jaunes sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent pas laisser à leurs gosses une planète qui part en vrille. Ils ne veulent pas respirer un air pollué. Mais que concrètement, ils ne peuvent pas, s'il faut isoler la maison et sortir 20 000 euros, ils ne peuvent pas le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on montre qu'il y a des solutions.
Par exemple, au niveau européen,
la Banque Centrale Européenne a créé 3 000 milliards d'euros depuis 3 ans. La Banque Européenne, je répète plus calmement, a créé 3 000 milliards. Donc,
pour la crise, pour les banques, hein, on rappelle. Hein, c'est pour
D'abord, en 2008, vous avez raison, en 2008, c'était 1 000 milliards pour éviter l'effondrement. Mais depuis 2014, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing de routine. C'est 3 000 milliards juste pour dire aux banques, aidez-nous pour relancer la croissance. Ce qui ne marche pas. On voit que presque 90% va à la spéculation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que on arrête d'alimenter la spéculation et que l'argent qui est créé par les banques centrales aille pour financer. Si chacun de nous doit isoler sa maison, s'il faut faire 20 000 euros de travaux, eh bien qu'au moins la moitié de la facture soit payée par la collectivité.
Alors évidemment,
on fait des économies. Je connais des gens qui habitent dans un HLM où on a fait ces travaux d'isolation. Ils font en moyenne 800 euros d'économie sur l'année.
Donc, le truc qu'on appelle la précarité énergétique avec lequel, pardon si je suis un peu vulgaire, on nous bassine depuis des années. On nous dit qu'il est une grande urgence de rénover.
Hier, sur un autre plateau, j'étais en débat avec un gilet jaune qui dit qu'il habite dans un HLM et qu'il se caille l'hiver et qu'il ne chauffe que deux ou trois pièces où ça coûte la peau des fesses.
Vous nous dites la même chose et on va y revenir bien entendu sur ce que vous proposez au niveau de l'Europe. Évidemment, on va y passer un moment. Nabil, si vous aviez un fonds qui vous prêtait de l'argent pour rénover votre habitat.
Mais qui paye la moitié de la facture, c'est pas juste qu'on prête de l'argent, on paye la moitié de la facture déjà.
Qui rénove le bâtiment, qui paye la moitié de votre facture et qui vous permettre de passer à un véhicule qui soit moins polluant, j'imagine que comme tout le monde, vous iriez, non ? N'est-ce pas, Nabil ?
Complètement. Si j'avais l'argent pour le faire, je l'aurais fait. Mais j'ai juste envie de dire un message à Macron. Est-ce que c'est possible ? Vous pouvez me laisser le dire ? J'ai écrit juste un petit truc, c'est rapide, ça dure 2 secondes.
Allez-y.
S'il veut laisser son image dans l'histoire et graver son nom dans la pierre comme le meilleur lancé, il devrait se mettre à la même hauteur de ceux qui le détestent et ils l'acclameront. Rends ton peuple heureux et tu rendras ton pays fier. Et j'ai envie de lui dire liberté, égalité, fraternité. Ces mots, pour moi, ils comptent beaucoup. Voyez ? Et moi, je suis un Français. Et j'ai envie de dire à ma France, je soutiens toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans le même cas que moi, et même qui sont encore plus bas que moi, parce que peut-être que moi, je vis au juste, et j'essaie toujours de m'en sortir dans la galère. Mais j'ai envie de dire à notre président, mets-toi à notre hauteur, et tu comprendras notre douleur.
Nabil, merci infiniment pour ce que vous venez de nous dire. Vous avez tout à fait parfaitement planté le décor et c'était félicitations pour ce texte que vous avez dû écrire et qu'on va essayer de transmettre d'ailleurs au plus haut. Anne Hessel va vous surprendre avec quelques solutions, de même que Pierre Larouturu. Je ne sais pas si nous sommes dans le rêve ou dans la réalité. J'ai l'impression en tout cas que les gilets jaunes nous mettent autour de la table et nous mettent face au concret. Nous allons continuer de parler avec vous. Les gilets jaunes face à l'environnement. 32-16, il est 14h14, vous écoutez RMC.
RMC, M comme Maïtena. RMC, M comme Maïtena.
Un discours orienté vers l'Europe, le nucléaire, l'énergie. C'est pas une question européenne, c'est pas une question liée à l'énergie.
Et si on veut que les Français soient écolos, faut leur donner l'argent.
C'est vrai ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les comportements vertueux sont plus chers. Quand on n'a pas l'argent, on peut pas être écolo.
Quand je regarde mon fil d'actualité Facebook et que quand je scroll, je vois une photo de personnes qui pèsent 25 kilos au Yémen et qui sont en train de crever la dalle, d'un article de WWF qui dit qu'il y a 60% des espèces animales qui sont en train de disparaître. Je pense que c'est pour ça qu'on devrait se bouger. Avant de se bouger pour l'essence.
Maïtena Birabin.
Nous faisons le match, les gilets jaunes face aux experts de l'environnement et étonnamment, vous allez le voir, les uns et les autres disent bien souvent la même chose. Pierre Larotourou est co-auteur du livre Finance, Climat, Réveillez-vous, les solutions sont là, c'est aux éditions Indigènes. Il est également économiste et il a été nommé au Conseil pour le climat qui a été voulu par le président de la République. Anne Hessel est elle aussi co-auteur de ce livre, de même que Jean Jouzel qui est climatologue au GIEC. Anne, vous êtes vous, docteur en médecine et en chimie. Lydie nous écrit, elle nous dit, je suis gilet jaune, je crois bien être écolo, je tends vers le zéro déchet, je trie, je roule propre, je ramasse avec les enfants une fois par semaine les déchets autour de l'école. Cependant, nous taxer pour la planète, c'est non en plus de tout ce que l'on paye. La Suède est un bon exemple, peu d'argent investi, ils ont 12 ans d'avance. En France, on a dilapé de l'argent, donc moi je ne paye plus. Et Anne, vous dites exactement la même chose, vous dites que prélever de l'argent sous forme de taxe, c'est injuste.
Enfin, je dis que c'est la forme d'imposition la plus injuste.
Oui.
Je pense que l'imposition proportionnelle aux revenus est beaucoup plus juste que l'imposition qui pèse essentiellement sur les gens qui gagnent le moins. Mmh. Les taxes sont obligatoires pour tout le monde. Les gens qui gagnent très bien leur vie ne les sentent pas passer. Et les gens qui ne gagnent pas bien leur vie, qui sont au chômage ou qui sont dans des emplois peu payés, ne peuvent plus payer toutes ces taxes.
La TVA, elle est beaucoup plus lourde quand on a 1200 euros par mois que quand on en gagne 7000 par mois, forcément.
Mais bien sûr,
bien entendu. Puisqu'elle est la même pour tout le monde, je le rappelle. Vous dites qu'il faut repenser le rôle de la finance et de la fiscalité et que si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez, Anne-Essel?
Ah, ça, c'est merveilleux. Si j'étais au gouvernement, je pense que je changerais effectivement la fiscalité. J'essaierais de taxer, de peser plus sur les gens qui ont plus que sur les gens qui ont moins.
Ouais.
Je pense qu'un des gros problèmes de notre société, et il me semble que les gilets jaunes ne me contrediront pas là-dedans, c'est l'inégalité. Il ne suffit pas de monter les bas salaires. Si on monte les bas salaires, la vie va enchérir et les bas salaires resteront les bas salaires, moins bien payés, bien sûr, que les hauts salaires. Ce qui est le plus important, c'est de diminuer les inégalités. Pour ça, il y a plusieurs leviers possibles.
L'un c'est le fameux de 0 exemple, à 30, de ne pas avoir d'écart supérieur à 0 à 10 ou 0 à 7. Que le plus bas salaire ne soit pas inférieur à 7 fois le plus haut salaire.
Voilà, ça peut être une, ça sûrement, c'est une des manières de réduire les inégalités. L'autre manière est d'avoir, par exemple, des prix variables sur l'énergie ou sur l'eau ou sur les choses absolument indispensables à la vie.
En fonction de ses revenus?
En fonction, non, que l'usage minimal soit quasiment gratuit. Et puis que au-delà de l'usage minimal,
jusqu'à
on paye
temps,
davantage.
On paye pas, et puis au-delà, voilà. Si on consomme davantage, on paye.
Ça permettrait deux choses. Ça permettrait d'une part de payer moins pour les gens qui ont moins d'argent,
oui.
Et d'autre part d'inciter tout le monde, les pauvres et les riches, oui. À faire des économies d'énergie.
Et à considérer, bien sûr.
Et nous n'y couperons ressources. Pas si nous voulons avoir une action sur le dérèglement climatique.
Josie nous a rejoint au 32-16. Bonjour Josie. Merci d'avoir patienté, c'est adorable. Vous êtes gilet jaune, vous aussi, Josie.
Oui, tout à fait.
Alors,
oui.
Dites-nous.
Pour la première fois,
oui.
J'ai 54 ans et pour la première fois, j'ai toujours eu des idées assez tranchées sur pas mal de sujets. Et c'est la première fois que je m'engage pour quelque chose, parce que là, je pense que c'était indispensable pour moi.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a déclenché et quel est le rapport avec quel rapport avez-vous avec l'environnement, Josie?
Alors, je dirais évidemment, je viens d'écouter la personne qui vient de parler avant moi.
Anne-Essel.
Voilà, tout à fait. Et je suis entièrement d'accord. Hein. J'ai écouté attentivement ce qu'elle a proposé. Je suis pratiquement d'accord sur tout ce qu'elle vient de dire, effectivement.
Mais est-ce qu'on n'est pas un repère de dangereux gauchistes quand on dit ça, Josie?
Non, je pense pas du tout. Alors là, moi, je vais vous dire, c'est pas du tout le cas. Je n'ai aucun engagement politique, de quel qu'il soit. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de droite. Je ne suis pas du tout quelqu'un de gauche ou extrémiste gauchiste.
Oui.
Absolument pas. Mais j'ai conscience, j'ai 3 enfants, j'ai une petite fille, j'ai tout à fait conscience que l'écologie est importante.
Oui.
Par contre, moi, dans mon métier, je suis aide-soignante à domicile.
Oui.
C'est la première, enfin depuis longtemps déjà. Actuellement, je vois des gens, je soigne beaucoup de gens handicapés, âgés, qui sont en mauvais état de santé, bien évidemment. Je n'ai jamais vu une telle misère. Et je le dis, une telle misère. Et moi, je pense sincèrement que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de l'écologie punitive.
Alors justement,
on ne comprend pas du tout. Excusez-moi, je voulais simplement dire que j'ai écouté Monsieur Macron, j'ai écouté attentivement, évidemment, son intervention l'autre jour. Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné.
Alors
parce
qu'il
ne comprend pas. Il ne comprend pas dans quelle désespérance sont beaucoup de gens.
Alors, je vais prolonger votre question. Josie, je me tourne vers Pierre Larrouturou parce que, et on a de la chance, on a quelqu'un ici qui est au contact du président de la République. Donc, il le voit. Nous, on voit des images à la télévision ou on entend des sons à la radio. Vous, vous le voyez.
Je l'ai vu une fois.
Non, mais vous l'avez vu
une heure.
Non, mais d'accord. Vous l'avez vu une fois pendant une heure, mais
j'espère
quand même.
J'espère le revoir et le convaincre.
C'est de son fait, au Conseil pour le climat. Donc, moi, je vous charge de tout, hein. C'est comme ça,
c'est
Pierre, aujourd'hui.
C'est vous qui portez tout. Je l'ai vu une fois pendant une heure.
Quand Josie dit, j'ai écouté attentivement le président de la République, il a déclaré que politique sociale et environnementale allaient de pair et il a dit, je le cite, nous devons entendre l'alarme sociale, mais aussi il y a cette alarme environnementale qu'il ne nous faut pas oublier. Bon, bah, washi washa, tout le monde est d'accord. Mais ça, c'est des mots, quoi.
Écoutez, voilà, il a dit qu'il voulait 3 mois de débat. Je pense que tout le monde comprend que c'est gravissime, que notre pays ne va pas bien, qu'il y a plein d'autres pays au monde qui ne vont pas bien. Les problèmes sont les mêmes en Italie, en Allemagne. J'étais hier en Allemagne, les gens gueulent parce que les loyers ont doublé à Berlin, les loyers ont doublé en 10 ans. Donc les gens disent on n'arrive plus à vivre. C'est pas juste le problème de la France ou de Macron, c'est notre problème collectif.
Oui.
On a besoin de changer de modèle de société. On doit en même temps régler les problèmes qui sont accumulés depuis 30 ans et préparer l'avenir. Et avec des contraintes, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de solutions. Que quand on va voir ce qui se fait dans ce petit village, ce qui se fait dans cette entreprise, qui se fait dans cette...
chez nous, au Pays Basque, il y a une monnaie qui a été...
Maïtena, j'en ai pas là sur moi, mais il y a plein de choses qui bougent dans mon coin des Pyrénées. Moi, vous êtes au Pays Basque, moi je suis en Bigorre. Il y a des villages qui se sont mis ensemble et pour faire, au lieu de se chauffer avec du fuel, avec le prix du pétrole qui augmente, ils récupèrent les déchets dans la forêt et ils se chauffent. Il y a des centaines de personnes qui se chauffent comme ça. Globalement, ils ont tous fait 20% d'économie. À la fin, le bilan, chacun, à titre perso, fait 20% d'économie sur ses factures, aussi bien monsieur et madame tout le monde, que l'hôpital, que le lycée, que la mairie, que l'école maternelle, et ça crée 7 emplois. Au lieu de donner des centaines de millions à monsieur Poutine ou aux pays qui font du pétrole,
ou du gaz.
Globalement, tout le monde y gagne pour son portefeuille
mais
personnel.
Mais ça veut dire quoi? C'est la société civile qui va sauver la
accélérer.
France?
Ça veut dire qu'il faut accélérer et qu'il faut arrêter effectivement l'écologie punitive, comme bien vous venez de
comme Josie en parle,
dire,
oui.
Voilà. Et que bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent qui est disponible. Je répète, quand la Banque Centrale Européenne crée 3000 milliards, oui. On propose de créer une banque du climat au niveau européen. Encore hier, j'étais à Berlin, les gens disent, mais c'est une super idée, c'est faisable en quelques mois, quand le mur de Berlin est tombé.
Qui dit c'est faisable en quelques mois?
Là, c'était un des dirigeants, c'est le patron, je vais pas donner son nom, mais c'est un des patrons de la Banque Européenne d'Investissement, qui dit, quand le mur de Berlin est tombé en 1989, monsieur Mitterrand et monsieur Helmut Kohl, il leur a suffi de 6 mois pour comprendre qu'on était dans un truc historique et qu'il fallait faire une banque pour aider la transition.
Donc quoi, il faut du courage.
Donc
du courage politique.
Il faut que les citoyens s'engagent. C'est aussi pour ça qu'avec Anne Hessel, avec Jean Jouzel, avec d'autres, on a lancé une pétition pour demander à Monsieur Macron, Madame Merkel, est-ce que l'argent qui existe au niveau européen va sur tous nos territoires pour financer la transition? On peut pas demander aux gens de ne pas prendre leur voiture s'il n'y a pas de transport en commun. Dans mon coin des Pyrénées, tout le monde prend sa voiture pour aller à Argelès pour travailler.
Oui.
Il y a forcément 30 kilomètres.
Il n'y a pas
le
choix.
Donc, s'il n'y a pas de transport en commun ou si on n'invente pas une voiture qui consomme beaucoup moins, le problème est indémerdable. Bonne nouvelle, on a des chercheurs. Quand l'Europe a voulu faire Ariane ou Airbus, on a mis des milliards et en quelques années on a fait Ariane, en quelques années on a fait Airbus. Donc est-ce qu'on se donne en même temps les moyens de faire du travail à distance? Peut-être que tout le monde pourrait, il y en a qui pourraient aussi travailler à distance.
Qui était dans la loi travail, on le rappelle.
Oui, mais il faut juste faire des espaces de coworking. Voilà. Et il y a une ou deux fois par semaine où on ira au boulot parce qu'il faut quand même voir les collègues, mais le reste du temps on peut rester chez soi ou dans son village.
Alors on va continuer.
Mais ça demande des investissements massifs et la bonne nouvelle c'est qu'il y a de l'argent disponible au niveau européen et qu'en quelques mois on peut le débloquer.
Alors on va évidemment continuer d'aborder toutes ces solutions pragmatiques ou un peu plus virtuelles dans les idées ou dans les faits, dans un futur très proche ou dans un futur plus lointain. Merci beaucoup Josie d'avoir été avec nous. Pascal, restez encore un tout petit peu de patience. On se retrouve dans un instant et on va avoir bien 12 minutes pour discuter. Les Gilets jaunes face à l'environnement, 32-16.
RMC, M comme Maïtena. RMC jusqu'à 16h. M comme Maïtena, Maïté Nabirabin.
C'est un petit livre avec un bandeau rouge, un fond noir, une planète. Finance, climat, réveillez-vous. Les solutions sont là. Et si la finance et le climat sont l'un à côté de l'autre, ce n'est pas par hasard. C'est aux éditions indigènes. C'est signé Anne Hessel, Jean Jouzel, Pierre Larouturou. Jean Jouzel n'est pas là, il était là la semaine dernière. Mais nous avons avec nous Pierre Larouturou et Anne Hessel. Anne Hessel, vous êtes peut-être en train de vous dire, je connais ce nom. Vous avez peut-être lu aussi un autre petit livre qui s'appelait Indignez-vous, bien entendu. Vous êtes la fille de l'auteur d'Indignez-vous, l'autre Hessel, le grand monsieur Hessel, et on a la chance de vous avoir, Anne. Vous vouliez dire un mot sur l'indignation et sur le moment dans lequel nous sommes. Est-ce que les gilets jaunes sont des indignés?
Oui, ils sont des indignés, ça, il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute. Mais si mon père a écrit « Indignez-vous », il a, qui était un petit livre tout à fait clairement
engagé pour l'engagement,
mais ensuite il a voulu absolument publier un autre livre qui s'appelait « Engagez-vous », car il pensait très fort que l'indignation seule
ne suffit pas,
ne mène malheureusement pas toujours à la victoire, alors que l'engagement toujours.
Oui.
Et notre réveillez-vous est un réveillez-vous qui doit être suivi absolument d'engagement, bien sûr, et de victoire, parce que nous ne couperons pas la victoire.
Ouais. Vous êtes gilet jaune?
Non, je ne suis pas gilet jaune. Ouais. J'ai la chance éhontée d'être une grande privilégiée, d'habiter à Paris, de pouvoir ne pas avoir de voiture et donc de ne pas payer de taxes sur l'essence. Je trouve d'ailleurs scandaleux qu'on fasse payer des taxes uniquement sur l'essence des particuliers et qu'on ne taxe ni les poids lourds, ni les avions, ni les utilisateurs de kérosène autres que les particuliers. C'est toujours les mêmes contacts.
Certains ultras privilégiés soutiennent massivement, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission, il y a des tas de gens du show business par exemple qui n'ont besoin de rien et qui soutiennent massivement les gilets jaunes ou pas d'ailleurs, mais enfin c'est pas le sujet.
Il y a une demande de justice sociale. Moi ça me choque.
C'est ça, c'est la question de la justice sociale.
Que des gens qui ont les moyens disent quand même ça me choque que des gens n'arrivent pas à vivre correctement, qu'ils soient englués. Donc moi je trouve très bien que des gens plus riches disent on est solidaires, la République c'est bien ça. Oui. Et la question est de savoir est-ce qu'on dépasse la colère et qu'on trouve des solutions. Oui. Et quand le président dit qu'il veut 3 mois de débat, nous on a envie de dire chiche, on met tout sur la table, ça se règle pas en 3 jours, mais dans 3 mois, si on le veut, on peut dessiner une nouvelle société et des mesures d'urgence qui vont faciliter la vie des gens tout de suite.
Alors on va les évoquer très rapidement. Pascal est avec nous au 32-16. Bonjour Pascal, merci d'avoir attendu. C'est adorable. Qu'est-ce qui vous amène Pascal?
Bonjour à vous, bonjour à vos invités. Moi, ce qui me dérange, je suis tout à fait d'accord avec ce que la dame vient de dire là par rapport aux gilets jaunes. Je suis gilet jaune moi-même, mais ce que je trouve intolérable, c'est que nous continuons à perforer, Total continue à perforer en Guyane, et on nous demande de faire des économies, de faire des économies et d'éviter la pollution.
Qu'est-ce que vous appelez perforer en Guyane, Pascal? C'est les recherches,
le pétrole. La recherche, le pétrole.
Forer, en fait.
Voilà. Ouais. On demande aux particuliers de payer.
C'est ce que vient de nous dire Anne Hessel en disant on taxe les particuliers, mais il faut absolument taxer les grandes entreprises qui doivent absolument participer à cet effort pour l'environnement. C'est ça que vous nous dites, Pascal?
Voilà, tout à fait. Et qu'on cherche pas les solutions d'abord et après pouvoir augmenter le gasoil ou le gaz. Le gaz va encore augmenter là bientôt.
C'est vrai, absolument. Hein? Ça va augmenter effectivement au début de l'année.
Donc voilà pourquoi je suis gilet jaune. Je me bats pour ça, qu'ils trouvent des solutions avant de pouvoir taxer. Alors lorsque là, ils taxent et après ils trouveront des solutions.
Et après ils trouvent des solutions. Vous êtes peut-être comme Thomas qui nous écrit et qui nous dit on ne peut pas supprimer l'ISF et dire qu'on surtaxe pour l'écologie. Anne Hessel, vous partagez ce point de vue?
Tout à fait. Tout à fait. Il faut absolument taxer les plus riches. C'est là qu'est l'argent.
Oui.
L'argent, il n'est pas chez les gilets jaunes, mais il n'est pas non plus chez les chômeurs, il n'est pas chez les petits salaires.
Est-ce que pour autant la sauvegarde de la planète n'appartient qu'aux plus riches d'entre nous?
Bien sûr que non. La sauvegarde de la planète est indispensable. D'ailleurs, c'est pas la planète qu'il faut sauver, hein, c'est l'humanité.
Oui, parce que la planète, elle ira
planète
très bien,
elle continuera sans nous, très bien.
Oui.
Sans nous, sans les animaux, sans les végétaux.
Oui.
Quand on ne pourra plus se nourrir, quand on ne pourra plus que mourir, eh bien, la planète, elle, continuera à tourner autour du soleil.
Mais, oui, Pascal, je vous écoute très vite.
Il faudrait penser aussi à arrêter de construire. À force, il n'y a même plus de verdure. Il n'y aura que du goudron. et l'eau va plus pouvoir s'évacuer. C'est ça aussi qu'il faut penser. C'est pas qu'une histoire de... Voilà, c'est une totalité de choses.
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, les demandes, les revendications des Gilets jaunes sont extrêmement nombreuses, multiples et diverses. Pascal, on va aller rejoindre Benoît Ballet, qui est reporter RMC. Il est à Thiviers. C'est en Dordogne. Benoît est là-bas depuis dimanche soir. Salut Benoît. Comment ça va?
Salut Maïtena. Salut à tous. Ça va très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Comment raconte-nous la température, s'il te plaît, avec les Gilets jaunes en Dordogne depuis dimanche soir? On parlait des revendications, on vient d'en entendre là maintenant, on vient d'avoir avec nous un gilet jaune qui nous dit moi ce que je veux c'est sauver la planète, donc les revendications elles sont multiples, vraiment.
Oui, elles sont multiples. Alors ici, l'ambiance, c'est plutôt bon enfant, on va dire. En fait, je me trouve à un rond-point à l'entrée de la ville et les Gilets jaunes, ils sont une cinquantaine en semaine, on va dire plusieurs centaines, beaucoup plus nombreux les samedis. Mais le nombre, voilà, une cinquantaine, c'est assez fixe. En fait, ils font des barrages filtrants à ce rond-point. Ils arrêtent quelques minutes les voitures, les camions et puis ils discutent avec eux. Alors là, c'est la fin du déjeuner, une petite saucisse au barbecue, c'est l'heure du café. Mais on sent une vraie fatigue, une vraie tension. C'est le 13e jour de mobilisation pour certains. Ils sont quand même, il faut le dire, très très en colère contre le gouvernement, toute forme de pouvoir. Je vois même quelques gilets jaunes qui, parfois en fait à la fin de la journée, pardon, ils se mettent même à pleurer parce qu'ils vivent des choses de fatigue, de tension. Alors heureusement ils sont soutenus par les automobilistes qui s'arrêtent, qui leur disent bon courage, on est avec vous, on travaille, on peut pas mettre le gilet jaune.
Ça a évolué ça depuis dimanche, Benoît, ou est-ce que il y a de plus en plus de gens qui soutiennent le mouvement ou pas?
Il y a de plus en plus de gens qui soutiennent le mouvement, c'est ce que me disait une gilet jaune hier. Vraiment ça fait chaud au cœur. Et ils s'attendent à avoir encore plus de personnes autour d'eux samedi, puisqu'ils vont rester là pour manifester. Ils ne veulent pas monter à Paris.
Merci infiniment, Benoît, d'avoir été avec nous pour nous donner la température. Donc depuis Thiviers en Dordogne, on te salue là-bas où tu restes encore, bien entendu, pour RMC. Pierre Larotourou, ça cristallise tout, absolument tout, ce qui va mal, tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui semble injuste, tout ce qui révolte, tout ce qui agace, tout ce qui... C'est incroyable comment ce mouvement a agrégé, parce que honnêtement, les demandes sont... ça va du noir au jaune, enfin c'est... On parle la réduction de la taxe carbone, l'annulation du projet de loi sur les biocarburants de l'huile de palme, l'abandon du projet de renouvellement du parc automobile français en électrique, la suppression du Sénat, enfin il y a de tout, vraiment, dans les gilets jaunes.
Il faut du débat, c'est normal qu'il y ait de la colère, il y a de la souffrance, il y a moi, en ville, on vit bien. Anne l'a dit, nous, ceux qui vivons à Paris, on a le métro, donc on prendra, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent relégués, qui ont pas de boulot, les services publics ont fermé, il faut prendre la voiture parce qu'il y a plus de commerçants, donc faut prendre la voiture plus souvent qu'avant. Donc il y a des gens qui ont une vie très, très compliquée, et on peut comprendre qu'ils sont en colère. Oui. La question est de savoir, est-ce qu'on fait la guerre, ou est-ce qu'on essaie de construire un avenir pour notre pays, pour nous-mêmes et pour nos enfants?
Alors, vous les connaissez, vous, les gisements d'emploi, les ressources renouvelables, les méthodes agricoles pour vivre bien et sauver la planète? Vous les connaissez, vous?
Oui, la question, encore une fois, quand Nicolas Hulot démissionne, il dit, c'est parce que il y a des solutions. Ouais. Ça pourrait être une bonne nouvelle. On pourrait créer des emplois partout. On pourrait gagner sur notre pouvoir d'achat.
Il avait raison de démissionner. Ça a servi à quelque chose. Mais
est-ce que ça provoque un électro? Est-ce que le gouvernement se dit, on arrête les rustines, on arrête les demi-mesures. Il n'y a pas de solution magique. Et c'est pas proprement la France. L'Allemagne a le même problème. L'Espagne a le même problème. L'Italie a le même problème. Donc c'est pas un problème de s'engueuler. C'est pas un problème politicien. Moi, ça m'énerve ceux qui récupèrent ça pour des... On est sur un enjeu de civilisation. On a une société on aurait tout pour vivre. On n'a jamais été aussi riche financièrement et humainement. On pourrait vivre dans une société de cocagne, mais il y a un problème d'inégalité, de partage des revenus, de partage des territoires, de qui finance la transition. Donc, est-ce qu'on est capable de prendre 2 mois ou 3 mois pour tout mettre sur la table et déboucher aussi bien sur des mesures d'urgence qui vont simplifier la vie des gens que sur où est-ce qu'on va dans les 5 ans qui viennent?
Alors, comment vous allez faire exactement, Pierre, avec ce Haut Conseil pour le Climat? Vous allez vous balader partout en France? Vous allez voir les gens?
Ça, c'est deux choses différentes. Le Haut Conseil pour le Climat a été créé pour... C'est une instance qui doit donner un avis dans 6 mois ou dans 1 an. Par contre, il y a deux choses qui ont été mis en place en même temps. Donc c'est normal.
La discussion pendant les 3 mois. Non, je ne les confonds pas, mais je sais que vous allez faire un peu des deux.
Voilà, moi, comme citoyen, comme père de famille, avec Anne, avec Jean Jouzel, on milite en disant maintenant, on arrête dans les 6 mois qui viennent. Je le répète, quand le mur de Berlin est tombé, en 6 mois, on a trouvé les financements. Aujourd'hui, il n'y a jamais autant d'argent disponible, que ce soit les liquidités, quand la Banque Centrale crée 3 000 milliards.
La Banque Centrale Européenne, on parle de la Banque Centrale Européenne.
Tout à fait, la Banque Centrale Européenne qui crée 3 000 milliards qui vont pour l'essentiel sur les marchés financiers. Donc c'est tout à fait faisable en quelques mois. Ça se fait pas en 3 jours, mais il n'y a pas besoin de 20 ans pour créer une banque et l'argent va arriver. L'argent va arriver sur tous nos territoires.
Et là, on donnerait de l'argent pour faire quoi?
Pour financer la transition. solution pour isoler, qu'on isole tous les bâtiments publics et privés, donc en commençant par les plus précaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui dépensent trop d'argent pour se chauffer, eh bien, ils savent que l'hiver prochain, ils pourront faire vraiment des économies.
Ça créerait de l'emploi, par ailleurs ?
Ça peut créer jusqu'à 800 000 emplois. Parmi les gens qui nous soutiennent, on a l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, qui dit que notre projet peut créer 800 000 emplois en France. Donc d'un pays où il y a 4 millions de chômeurs, ça ferait pas de mal, et ça veut dire qu'il y a 800 000 familles où un nouveau salaire va rentrer. Donc tous, on pourrait faire des économies sur nos dépenses de chauffage, et il y a 800 000 familles où il y a quelqu'un qui était au chômage et qui va retrouver du boulot. Est-ce qu'on développe des transports en commun, là où c'est nécessaire? Et du coup, les gens feront des économies aussi sur leurs dépenses de transport. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à très court terme. Quand Anne dit qu'on peut modifier le tarif de l'énergie, pour dire que l'électricité est moins chère sur les besoins fondamentaux, et que par contre, ceux qui gaspillent payent plus.
Oui.
Donc, il y a des choses qu'on peut faire très vite, et puis il y a des choses qu'il faudra 6 mois ou 1 an pour mettre en place.
Expliquez-moi, expliquez à ceux qui nous écoutent, puisqu'on connaît les solutions, pourquoi on ne le fait pas? Ça sert qui? C'est les intérêts de qui? Pourquoi on ne le fait pas? Anne?
Alors là, vous me prenez complètement de court. Je n'ai pas la chance d'être au gouvernement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne profite pas si j'ose dire, excusez-moi, tous les gilets jaunes, si j'ose dire qu'on ne profite pas de la chance de découvrir tous ensemble les enjeux climatiques. Cette découverte des enjeux climatiques devrait réenchanter nos projets.
Pardon, je vous interromps là parce que Thierry est avec nous et je pense qu'il aura envie de dialoguer sur ce sujet, Anne Hessel. Bonjour Thierry, merci, bienvenue à vous.
Bonjour à tous.
Merci d'être là. Vous venez d'entendre ce que vient de dire Anne Hessel ou pas?
Oui, je viens d'entendre, oui. D'ailleurs, elle a bien raison. comment ça se fait qu'on ne fait rien? Moi, je ne sais pas, c'est la première des choses qu'on devrait faire. Enfin, moi, si je peux intervenir, hein, je suis sur la route, je suis un mauvais garçon, je pollue, je suis routier. Donc, j'ai un camion Euro 6 qui doit moins polluer que des grosses berlines allemandes, je ne citerai pas de marque, mais bon, ça, c'est l'anecdote. Voilà, moi, ce que je vois sur la route, puisque je roule toute la journée, au rond-point, je vois des retraités, je vois des personnes qui font leur journée de travail, qui vont sur les ronds-points. Mais des jeunes, beaucoup de jeunes, qui travaillent pas, on s'en fiche à la limite. Mais ce que je vois, les revendications, c'est pas l'écologie, hein. C'est on veut de l'argent, on veut de la soupe à la fin du mois, on veut du pain. Voilà.
Mais ça, Thierry, on a commencé.
Il la laisse de côté pour le moment. Hein.
Thierry, on en parlait justement tout à l'heure et on se disait que ça n'était pas en fait la fin du mois contre la fin du monde, cette fameuse phrase qui est vraiment qui est choc. Hein, c'est une formule. Mais tous ceux que nous avons eus jusqu'à maintenant au 32-16 et mes deux invités, Pierre Laroutourou et Anne Hessel, nous disent ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en fait. C'est aussi d'ailleurs ce que dit le président de la République et que bien entendu quand on doit boucler sa fin de mois, la première des choses à laquelle on pense, c'est à boucler sa fin de mois. Et ça n'est pas à sauver la planète, c'est tout à fait logique. Mais il y a bien entendu, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien entendu, en tout cas, il y a des solutions qui permettent de boucler la fin de mois ou qu'on n'ait pas à boucler la fin de mois difficilement et qui sont des solutions écolo. D'où le serpent qui se mord un peu la queue la réflexion que vous aviez il y a un instant, Anne Hessel, je vous laisse la parole pour conclure. Merci Thierry d'avoir été avec nous, puisque nous arrivons au bout de ce match, mais je crois qu'on a tous gagné.
Alors pour conclure, c'est un peu difficile de conclure, mais je vais essayer. Oui. Je pense que le combat pour lutter contre le dérèglement climatique met en jeu tout ce qui est fait le fondement de nos sociétés capitalistes avancées, une espèce de course au profit qui devrait profiter à tout le monde et qui en fait profite aux plus riches, bien entendu, qui creuse les inégalités. C'est un très vieux débat, déjà dans les années 70, alors qu'on n'était pas dans le dérèglement climatique, on parlait déjà du fait que plus les riches sont riches, plus les inégalités sont creusées, et plus l'injustice sociale est au cœur des revendications.
Et je crois que c'est ça qu'expriment effectivement les Gilets jaunes aujourd'hui. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment tellement le sujet du jour. Finance, climat, réveillez-vous. C'est signé Anne Hessel, Jean Jouzel, Pierre Laroutourou. Les solutions sont là, c'est aux éditions indigènes. Merci beaucoup.
8 euros seulement.
8 euros seulement.
Et sinon, il y a un site, pacte-climat.eu. Pacte-climat.eu.
N'hésitez pas. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je crois que même Poupette nous a envoyé un message, donc je suis extrêmement contente. Merci à tous, on retrouve Rémi dans un instant.